dit parfois être myope comme une taupe. C'est vrai que je ne vois pas très bien.
La taupe est un auxiliaire au potager plutôt qu'un nuisible.
Ouais, et surtout les taupes. Bonjour. Aujourd'hui, les topazes vous invitent à traverser l'Atlantique et à vous intéresser à un pays riche et divers. Une nation immense, tant de par son territoire que sa culture. Une contrée passionnante, mais à l'histoire tragique et sanglante, la Colombie. Plus particulièrement, nous allons revenir sur les manifestations et les grèves nationales qui commencèrent le 28 avril dernier et qui se poursuivent encore sporadiquement en ce moment. Mais surtout, sur la réponse d'un gouvernement criminel, laquelle se résume en une répression terrible et sans nom. Si l'on parle de la Colombie, quoi de mieux que de commencer par nous imprégner des mots d'un de ses plus fameux écrivains et citoyens, Gabriel Garcia Marquez. Nous plonger dans son discours d'acceptation du prix Nobel de littérature, où le grand Gabo nous dépeint une Amérique latine dépendante du bon vouloir des grandes puissances et condamnée à des siècles de solitude, certes, mais qui pourrait être aussi le berceau d'une utopie nouvelle. Avant de nous taire, de laisser place au maître, en espagnol s'il vous plaît, et ensuite à Robin qui enchaînera sur son livre phare, le récit du massacre des bananeraies et les liens avec la situation actuelle, voici la traduction des extraits choisis. C'est cela, mes amis, le nœud de notre solitude. Comme s'il n'était pas possible un autre destin que de vivre à la merci des deux grands maîtres du monde. Telle est, mes amis, l'ampleur de notre solitude. Cependant, face à l'oppression, au pillage et à l'abandon, notre réponse est la vie. Il n'est pas encore trop tard pour entreprendre la création de l'utopie contraire, une utopie nouvelle et triomphante de la vie, où personne ne pourrait décider pour les autres jusqu'à la façon de mourir, où l'amour pourrait être certain, et le bonheur possible, et où les lignées condamnées à 100 ans de solitude auraient, enfin et pour toujours, une deuxième chance sur Terre. Mille merci Gabo, et on vous écoute.
Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Dans 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez nous relate un événement tragique qui eut lieu il y a bientôt un siècle. On y suit José Arcadio Segundo, des syndicalistes, des travailleurs et des habitants du village de Macondo qui se sont mis en grève et protestent contre les conditions esclavagistes de travail dans les cultures de bananes de la United Fruit Company. Cette dernière, fatiguée de cette montée rouge et contestatrice qui fait voir rouge et rire jaune à ses actionnaires, convoque son employé du mois, le gouvernement colombien, qui ne tarde pas à envoyer l'armée et un général zélé pour mater cette bande de rêveurs qui osent demander un monde meilleur. On leur lit un décret qui les qualifie de criminels et permet donc de faire parler les armes. Après leur avoir donné 5 magnanimes minutes pour déguerpir, un capitaine donne l'ordre de tirer. Au début, l'acte prend la forme d'une hallucination, d'une mauvaise farce, de bruits de feux d'artifice au milieu d'un silence mortel. Mais très vite, les manifestants réalisent qu'ils sont les protagonistes et victimes d'un impitoyable massacre, l'une des premières grandes manifestations du terrorisme d'État en Colombie. Par chance, par magie ou par malheur, José Arcadio Segundo survit et parvient à retourner à son village. Mais, comble et surprise, on lui annonce qu'il se trompe et que ce massacre n'a jamais eu lieu. Ici, il n'y a pas eu de mort, non, monsieur. Le gouvernement, les journaux le disent. Les travailleurs sont rentrés satisfaits des négociations avec la compagnie bananière et seules les pluies diluviales ont empêché que le travail ne reprenne. Mais ce train emmenant des milliers de corps dont parle José Arcadio, cela ne pouvait être qu'un mauvais rêve. Pourtant, ces faits aujourd'hui largement documentés n'ont rien à voir avec un rêve ni avec le fameux réalisme magique de Gabo. Le 6 décembre 1928, 1500 personnes tombèrent sous le feu d'une force qui n'a de public que le nom, et les persécutions se poursuivirent pendant près d'un mois. Serait-ce un éternel retour de l'histoire et de ses horreurs, le fait que les hommes aiment les perpétuer, ou tout simplement que rien ne change fondamentalement? En tout cas, le lien entre le massacre des bananeraies d'il y a un siècle et la répression actuelle du mouvement de protestation en Colombie est tristement clair et manifeste. En effet, depuis la fin avril, nombre de Colombiens marchent dans les rues du pays, occupent les places et bloquent certains axes routiers et commerciaux pour exprimer leur mécontentement.
Quelles sont les raisons de cette colère, de ce ras-le-bol?
Tout commence avec la proposition du gouvernement Duque de réforme fiscale du travail et de la santé. Réforme qui allait appauvrir encore plus une grande partie de la population, déjà affectée par des crises à répétition. Cela ne s'y limite pourtant pas, car les motifs de manifester en Colombie sont légions. Un pays où la corruption et le narcotrafic gangrènent toutes les sphères de l'État, du petit fonctionnaire au plus haut mandat politique et économique. Une farce et façade de démocratie avec un président marionnette, et où tous les appareils de contrôle, de contrepoids judiciaire ou administratif sont aux mains de ces mêmes élites mafieuses. Un des pays les plus inégalitaires au monde et qui détient de tristes records de personnes déplacées, d'assassinats, de leaders sociaux et de massacres. Des accords de paix qui donnent de grands espoirs, mais se révèlent toujours bancals et que les gouvernements signataires ne respectent même pas. Bref, si on y rajoute une pandémie qui sert à justifier des mesures compliquant encore plus la vie des gens, on comprend que ceux-ci n'en puissent plus. Le droit de grève est un droit fondamental. Contrepoids démocratique, il reste un des derniers leviers pour qu'une population se fasse entendre de ses dirigeants. Toutefois, dans un pays où les politiciens sont plutôt élus grâce à la corruption qu'au droit de vote, son effet en devient limité. Il est même carrément annihilé quand il ne donne pas lieu à des négociations, mais à un massacre. 100 ans après les bananeraies, autre temps, autres assassins, mais des méthodes très similaires. Le petit grand dictateur qui se croit éternel, Alvaro Uribe Vélez, annonce sur Twitter que les forces du désordre doivent pouvoir faire usage de leurs armes à feu contre les manifestants. Celles-ci, pensant naïvement que leurs chefs les couvriront et protégeront, ne se font pas prier et tombent dans un cycle de violence effroyable. Au diable les chiffres et statistiques, mais ceux-ci font froid dans le dos.
À la fin juin, on comptait près de 4000 cas de violences policières.
Des tirs à balles réelles dans sans distinction et contre des civils désarmés.
80 personnes ayant perdu la vie.
Des milliers de détentions arbitraires, des centaines de personnes disparues, des dizaines de personnes ayant perdu un œil ou souffert de violences sexuelles, des écoles, stations de bus ou supermarchés transformés en centres de torture, presque tout le sud du pays militarisé. Comme en 1928, le gouvernement et les médias à sa botte défendent pourtant leur légitimité et continuent la rhétorique d'ennemis intérieurs, d'un complot communiste insufflé par quelques dirigeants de l'opposition et les guérillas de l'ELN ou des FARC. Et pour être sûr d'être pris au sérieux, ils fomentent eux-mêmes les actes de vandalisme qui serviront ensuite à décrédibiliser la protestation sociale.
Ils sortent, véalos, de la station de police, véalos. Armaditos con piedras, con palos, véalos, uniformaditos de civil, véalos. Por quererte, por
amarte, por desearte. On pourrait continuer à relater les horreurs qui ont lieu en ce moment même en Colombie, mais nous préférons faire un appel à l'action.
Mais comment, Robin? Que peut-on faire à des milliers de kilomètres?
Eh bien, pas mal de choses et à différents niveaux. Aider les collectifs qui demandent une réaction internationale forte, condamnant les agissements de l'État et exigeant que les responsables soient poursuivis en justice. Faire pression pour qu'on applique la clause de suspension de l'accord de libre-échange et d'investissement conclu entre l'UE et la Colombie et le Pérou pour violation systématique des droits fondamentaux par une partie. Interdire la vente d'armes et de tout équipement militaire ou policier à la Colombie. Empêcher l'octroi des prêts internationaux au gouvernement car ils aggravent la dette abyssale du pays et finissent de toute façon dans les poches des politiciens. Demander à toutes les universités et conseils d'administration où siège Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos et autres criminels de guerre colombiens de les virer. Retirez votre argent, vos actions des banques internationales qui lavent les fonds des cartels latinos de la drogue, comme le dénonce le dossier FinCEN. S'attaquer de front au trafic de cocaïne et, à un niveau personnel, toujours penser que la ligne qui vous permettra de prolonger la fête ou le travail pour quelques heures de plus, qu'elle soit petite ou grande, est le fruit d'un long chemin parsemé de sang et d'horreur. Plus que tout, vous contribuez à enrichir les mêmes personnes qui poursuivent et massacrent leur population.
Merci Robin. Ajoutons encore deux échéances cruciales et tendues, les prochaines élections législatives et présidentielles qui auront lieu respectivement le 13 mars 2022 et le 29 mai. Il est impératif que la communauté internationale surveille de près leur déroulement et empêche de nouvelles élections volées et achetées, comme cela se fait depuis trop longtemps.
Comme toujours dans ce monde globalisé, des problèmes nationaux se trouvent liés à des phénomènes qui ne connaissent pas de frontières. Néanmoins, cela implique également que chacun puisse mettre sa pierre, son caillou à l'édifice, pour mettre fin à l'impunité qui règne en Colombie et dans tant d'autres parties du monde. Agissons pour que personne ne puisse écrire ou dire, dans 100 ans, que la solitude et les exactions sont encore la norme dans un pays pourtant si riche et divers. Fuerza a los resistentes y que viva el paro nacional.